Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine, Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau rendez-vous avec les musiciens programmés lors de l'édition 2021 du Festival de Rocamadour, une 16e édition qui touche à sa fin. La soirée clôture a lieu demain à la Basilique Saint-Sauveur, où va se produire le pianiste Alexandre Tarot. Mais auparavant, encore un grand événement ce soir à 21h30 dans la prairie, au pied de la cité de Rocamadour. Le concert donné par le contre-ténor Philippe Jarouski et la soprano Céline Chen, accompagné par l'ensemble L'Arpeggiata de Christina Plouard. On peut parler sans exagérer de soirée de gala tant l'affiche est prestigieuse, avec au programme le célèbre Stabat Mater de Pergolèse et des airs d'Antonio Caldara et Georg Friedrich Händel. J'ai le grand privilège de pouvoir m'entretenir avant ce concert avec Christina Plouard et Philippe Jarouski. Bonjour et grand merci à tous les deux de m'accorder cette interview. Avant qu'on revienne sur votre collaboration qui est ancienne maintenant et sur le programme que vous allez interpréter, je voulais savoir si votre venue au festival, la première pour l'un et l'autre à ma connaissance, était aussi pour vous l'occasion de découvrir le site de Rocamadour, la cité et le décor incroyable dans lequel vous allez vous produire ce soir.
Alors moi, j'ai découvert le site quand j'étais enfant. Alors j'ai un vague souvenir, je vais le redécouvrir, on est arrivé hier, donc je vais le redécouvrir peut-être le jour du concert, peut-être, ou peut-être un peu avant. Je sais pas toi, Christina.
Bon, moi, c'est une première fois, donc j'ai vu des photos, je sais que c'est un site magnifique, mais on va le découvrir ensemble.
Alors, vous êtes produits ensemble ou séparément dans des lieux du patrimoine religieux, marqués par une forte présence de l'histoire et du sacré. Est-ce que ce sont les endroits les plus inspirants pour vous, les plus porteurs ?
Alors moi, j'ai un rapport particulier effectivement à la musique sacrée. Je suis paradoxalement pas du tout croyant, mais j'aime beaucoup chanter dans les églises. Et on dit souvent que les voix de contre-ténor s'épanouissent, la clarté et la pureté de ces voix peut-être s'épanouissent très bien. En ce qui concerne le Stabat Mater, moi j'ai un chemin un petit peu compliqué avec cette pièce. Il m'a fallu pas mal de temps pour l'aimer, en tout cas dans sa totalité. Évidemment, on connaît le premier mouvement et le final.
L'air que tout le monde connaît.
Voilà, mais c'est vrai qu'il m'a fallu du temps pour aborder cette pièce, pour m'y sentir bien aussi. C'est une pièce exigeante, mais c'est une pièce, je crois, qui est fondamentale aussi pour communier avec un autre chanteur, en l'occurrence une autre chanteuse qui est la magnifique soprano Céline Chen. C'est la première fois qu'on chantera cette pièce ensemble, donc ça sera aussi un grand bonheur pour ça.
Oui, alors moi je suis vraiment très heureuse de pouvoir donner ce programme particulier ici. Pour moi, les Stabat Mater représentent surtout un texte incroyable. C'est basé sur un texte qui date du 11e siècle. Et je pense, on peut dire, même si on n'est pas croyant, c'est un texte complètement universel parce qu'il s'agit des pleurs de mère pour son fils qui meurt. Et en fait, je pense même dans ces temps agités, avec des images qu'on voit aujourd'hui apparaître des souffrances de beaucoup de personnes, autant plus c'est un texte qui touche énormément et je pense que ça va être une grande émotion pour nous de chanter cette pièce-là, mise en musique si beau par Pergolèse, évidemment chantée par des voix sublimes.
Et dans ce lieu précisément.
Exactement.
Alors ce soir ce sera un peu particulier puisque ça va être en plein air à la nuit tombée au pied de la cité illuminée, des conditions sur lesquelles nous allons revenir plus tard, mais avant je voudrais qu'on parle de vos collaborations. La première datant de plus de 20 ans, je crois maintenant. Il y avait eu un premier CD également un peu plus tard, enregistré fin 2007. Deux autres ont suivi. Il me semble que ce qui vous réunit au départ, c'est votre amour commun pour le répertoire du baroque le plus ancien, notamment italien. Ce n'est pas pour rien que votre premier CD, Teatro d'Amore, était consacré à Claudio Monteverdi.
Justement, c'est avec Claudio Monteverdi qu'on s'est rencontré avec Christina. Moi, j'avais 20 ans et on faisait la trilogie Monteverdi avec Jean-Claude Malouart. Christina jouait de la harpe au continuo. Et c'est vrai que j'ai eu cette chance au début, pour mes premières productions, de tomber complètement en amour avec ce qu'on appelle effectivement la musique du Seicento, qui est une musique qui est beaucoup jouée, mais qui, je trouve, a une inventivité, une liberté de forme et une liberté harmonique aussi, parfois même beaucoup plus riche que dans l'opéra seria, par exemple, plus tardif. Donc cet amour du Seicento, je crois qu'effectivement, quand il naît, il s'éteint pas comme ça, et on effectivement, Christina, souvent on se parle, j'appelle ça des compositeurs en I, on a toujours des mazzocchi, des partout, il y a encore une multitude de compositeurs à découvrir, c'est ça qui est incroyable.
Oui, en effet, c'est notre amour commun, c'est la musique italienne du XVIIe siècle. quand j'ai fondé mon ensemble, c'est effectivement pour jouer cette musique-là, en fait, surtout. Ici, à Rocamadour, on fait un répertoire un tout petit peu plus tardif, mais je sais que Philippe et moi, on a le même amour pour cette musique italienne de Monteverdi et ses contemporains.
Les compositeurs romains, napolitains, Pergolèse est mort à Naples, vénitien comme Caldara, Vivaldi était aussi vénitien, mais lui, il arrive un petit peu plus tard. Est-ce que cette période et cette musique est riche et diverse au point que vous découvrez encore des choses aujourd'hui?
Bien sûr, et on sait qu'il y a encore des trésors dans certaines bibliothèques qui ne sont pas répertoriées. On cherche encore des opéras de Monteverdi. On sait qu'il y en a beaucoup de perdus. Alors je pense que de plus en plus, on va devoir se faire une raison, on n'en a que trois. Mais je ne sais plus, je crois que Christina te doit savoir, mais je crois qu'il y en a écrit plus d'une quinzaine, ou enfin... Peut-être un peu moins. Mais on en a perdu quand même beaucoup. Et puis, il y a plein d'opéras. L'intérêt aussi, par exemple, de l'opéra du Seicento, du XVIIe siècle, c'est que ça a un intérêt surtout au niveau des livrets. On l'a vu avec tous les opéras de Cavalli qui ont été montés ces dernières années sur scène, que souvent le livret est d'une modernité, d'un humour.
Oui, il y a des côtés burlesques aussi. Hein.
Voilà, il y a beaucoup de rôles comiques. Et tout ce second degré, cet humour qu'on perd parfois après dans l'opéra plus tardif.
Oui, alors c'est une musique qui est basée sur les textes surtout, donc c'est l'émotion qui passe par les textes, c'est une musique très rhétorique, très théâtrale, très inspirée par la commedia dell'arte, donc tous ces éléments font que on n'arrête pas à découvrir, à la faire revivre, parce que ça vit pas sur les papiers, il faut la faire vivre, il faut improviser, il faut ornementer, il faut la vivre tout simplement cette musique.
Au programme de votre concert ce soir au pied de la cité, il y a un compositeur baroque très connu du grand public, Handel. Il y a une œuvre très connue du grand public, le Stabat Mater de Pergolèse. Et puis il y a plusieurs pièces d'Antonio Caldara, beaucoup moins connu lui du grand public que les deux précédents, alors qu'il a une importance capitale dans l'histoire de la musique savante européenne. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce compositeur vénitien à qui vous aviez aussi consacré un enregistrement, Philippe Jarowski, il y a 10 ans?
Alors oui, Caldara, il fait partie un peu de ces compositeurs, je dirais, comme Alessandro Scarlatti d'ailleurs, qui a à peu près la même importance et qui a la même production, hein. Il y a énormément d'œuvres. Ce sont des compositeurs, comme vous l'avez dit, qui sont savants, c'est-à-dire qui savent manier l'art de la fugue, du contrepoint, et on le voit notamment dans l'introduction qui sera jouée ce soir. C'est des compositeurs effectivement très importants parce qu'ils ont une importance énorme sur l'évolution de la forme. Ils sont partis effectivement des compositeurs charnières entre la fin du XVIIe et le début du XVIIIe, et quand on ouvre une œuvre de Caldara, c'est un peu comme Scarlatti, on est sûr de la qualité de la musique. C'est qu'il y a un niveau de composition. J'appelle ça, c'est un peu comme de la matière en perpétuel développement, fusion. C'est des gens qui savent développer une petite idée à l'infini. Et chaque air, et ça c'est très impressionnant chez Caldara, c'est pas le cas toujours de Vivaldi qui reprend lui-même ses œuvres.
Oui, oui.
Mais chez Caldara, chaque air est unique. Il n'y a pas une mélodie reprise et tout est neuf.
Oui, Caldara, c'était aussi un compositeur qui a passé une grande partie de sa vie à Vienne, en Autriche.
Il est mort à Vienne.
Il est mort à Vienne, oui. Et beaucoup des œuvres ont été créées, justement, écrites pour l'empereur à Vienne. Et donc, il y a un style particulier aussi chez lui, c'est les oratorios, justement, les oratorios sur des textes de la Passion. Donc, il a écrit vraiment beaucoup des œuvres dans ce style-là, parce que les empereurs de Vienne lui demandaient des concerts avec ses œuvres toutes les années, en fait. Et donc, on a inclus donc des de Madeleine, qui vont être chantées par Céline Chen, qui sont d'une beauté absolue aussi, et comme Philippe disait tout à l'heure, c'est surtout aussi sur la couleur instrumentale qui s'est fait remarquer. On voit des instruments pas forcément dans ces programmes qu'on va donner, parce que c'est une formation disons un peu classique avec un orchestre de chambre, mais dans ces oratorios et ces opéras, on voit vraiment tous les instruments de l'époque pour donner beaucoup de couleurs. Donc on a des airs avec psaltérion, avec luth, avec théorbe, avec chalumeau. Enfin, vraiment, il utilise toutes les couleurs possibles dans ses œuvres et c'est fantastique.
Puis on précisera que Caldara a eu une influence très importante sur Jean-Sébastien Bach, sur Telemann, enfin sur tous ceux qui ont suivi jusqu'à Haydn, jusqu'au classicisme viennois, hein, et même Mozart. 87 opéras à son répertoire. Alors, pour vous donner un premier aperçu du programme que vous allez donner ce soir au pied de la cité, voici justement un air composé par Antonio Caldara, Solieti Festaggiette, et il est interprété bien sûr par Philippe Jarowski, accompagné par l'arpeggiata.
Festeggiate, i vivi rose e colonnade, ancora in cielo si ripudì. Su soli di festeggiate, i vivi rose e colonnade.
Solietti Festaggiette, un air composé par Antonio Caldara, interprété par Philippe Jarouski, accompagné par l'arpeggiata. Il s'agit d'un air extrait de quel opéra, celui-ci ?
Oui, c'est toujours l'oratorio le plus connu, hein, la Maddalena. Et oui, c'est un concentré de positivité. Donc, on en a bien besoin.
Voilà, Maddalena e piedi di Cristo, c'est ça le titre de l'opéra d'où est extrait cet air. Il y aura des airs de quels autres opéras ce soir ?
On n'a pas des airs d'opéra, on a des airs d'oratorio. C'est-à-dire, on a un air de l'oratorio qui s'appelle La morte diabel. Et sinon, les autres airs sont justement La Maddalena, Al piede di Cristo. Et en fait, par rapport du reste du programme, donc les Stabat Mater, c'est donc dans la première partie, on a Maddalena qui pleure. Et puis, dans les Stabat Mater, on a la Vierge qui pleure.
Il va y avoir aussi du Handel au programme, donc ce sera une seule pièce, je crois, mais alors très célèbre, hein, celle-ci. Philippe, vous l'avez chantée à de très nombreuses reprises.
Oui, un air d'un oratorio, Il Trionfo del Tempo de Handel, qui est effectivement connu parce qu'on connaît un petit peu plus la version juste après, qui est la Chacupianga, extrait du Rinaldo. Donc on voit bien que aussi, parfois, la frontière entre l'oratorio et l'opéra est très très mince. Et d'ailleurs, on pourrait même dire que même dans le Stabat Mater, il y a une sensualité extrême qui se dégage entre les entrelacements des voix. Donc ce Lascia la Spina, oui, souvent il étonne parce que les gens disent « Ah, mais je connais une autre version avec des notes un petit peu différentes ». Mais évidemment, c'est un des grands tubes. Et c'est ce qui fait peut-être la différence finalement entre Handel et Caldara. C'est pas forcément la qualité de l'écriture, c'est que Caldara n'a pas vraiment composé, entre guillemets, de tubes comme l'a pu le faire Bach, Handel.
Absolument, c'est pour ça qu'il est sans doute moins connu du grand public, voilà. Malgré l'importance qu'il a pu avoir à son époque. Donc Handel, compositeur très important bien sûr. Et puisque nous parlons d'œuvres célèbres, on va revenir au Stabat Mater de Pergolèse, le morceau de bravoure de ce concert. Est-ce qu'on peut parler de chef-d'œuvre absolu, en tout cas d'un des plus grands de la période baroque ?
Ah, je dirais qu'il a beaucoup impressionné à l'époque, hein. Je crois que Rameau en parle aussi comme l'expression parfaite Ce qui est effectivement très surprenant dans cette pièce, c'est que c'est un compositeur très jeune qui l'écrit, terrassé à l'âge de 26 ans.
26-27 ans, oui.
Oui, c'est presque rageant de se dire qu'est-ce qu'il aurait pu écrire.
Oui.
Je pense qu'il aurait pu vraiment composer. On est proche presque parfois, même il est en avance sur le style classique, notamment dans ses opéras, on entend presque du Mozart déjà. Donc c'était quelqu'un de très en avance sur son temps. Et je crois que Pergolèse n'est pas le seul. Des Stabat Mater qui sont des chefs-d'œuvre, il y en a beaucoup.
Oui,
tous les compositeurs, Sanchez évidemment qu'on a chanté, Vivaldi, beaucoup de compositeurs ont donné le meilleur d'eux-mêmes. En tout cas, le texte, comme disait Christina, qui est très visuel parfois, parce qu'on a la flagellation, on a des choses comme ça très puissantes,
très imagé,
à stimuler l'imaginaire des compositeurs pour le rendre en musique. Et effectivement, ça, on le sent très bien dans cette œuvre de Pergolèse.
Est-ce que c'est une œuvre très difficile à interpréter, à la fois sur le plan vocal et sur le plan instrumental, Christina ?
Oui et non, je dirais, hein, parce que si on connaît le style, c'est pas une œuvre très très difficile à chanter ou à jouer, mais je pense que la chose difficile, c'est vraiment le rendre en profondeur, de vraiment pouvoir communiquer les émotions du texte. Et ça, c'est pas toujours le cas, je trouve, quand on écoute des versions parfois qui sont très belles et tout, mais parfois on a l'impression que pas tout le monde chante vraiment le texte et transmet les textes, les paroles. Donc pour moi, c'est la difficulté là-dedans, de vraiment trouver l'émotion.
Et sur un plan vocal cette fois-ci.
Alors moi, il y a quelque chose que j'aime bien insister sur cette pièce, c'est ce qu'a écrit beaucoup Pergolèse sur pratiquement l'ensemble de la pièce, c'est sotto voce, à mi-voix. Et ça, c'est vrai que c'est très étonnant parce que c'est peut-être pas l'idée qu'on se fait des voix de l'époque, mais il y a plein de moments où il veut effectivement que le chanteur finalement ne chante plus, murmure et soit presque étouffé par l'émotion du texte en fait. Et ça, je trouve c'est assez intéressant. C'est rare d'avoir des partitions de l'époque déjà qui indique des choses aussi précises, même dans l'articulation des violons. Et on sent vraiment une volonté de Pergolèse de guider aussi, à travers la partition, les futurs interprètes, en fait.
Un mot sur votre partenaire ce soir, la soprano belge Céline Chêne. Donc, ce sera une première pour vous, avec elle ?
Oui, alors, Pas avec elle, parce que j'ai le bonheur, je dois dire. C'est grâce d'ailleurs à Christina qu'on s'est rencontrés il y a peut-être quelques 2, 3, 4 ans. Et voilà, Céline est un rayon de soleil, en plus d'être une magnifique soprano. J'ai beaucoup de plaisir à chanter avec elle et j'ai hâte de chanter cette pièce avec elle. Par contre, là, vous avez raison, ce sera la première fois qu'on chantera ce Stabat Mater ensemble.
Nous allons de nouveau vous écouter, Philippe Jarouski, dans cet air archi-célèbre du Stabat Mater de Pergolèse, Dolorosa, que vous interprétez en compagnie de la soprano Emoke Barat sous la direction de Nathalie Stutzmann. Dolorosa, extrait du Stabat Mater de Pergolèse, interprété par Philippe Jarouski et Emoke Barat, accompagné par l'ensemble Orpheum 55, dirigé par Nathalie Stutzmann. Vous allez donc jouer en plein air ce soir, à la nuit tombée. Est-ce que ce sont des conditions que vous avez plusieurs fois pratiquées? Parce que, a priori, c'est pas forcément évident, à la fois pour les instruments, mais aussi pour les voix.
En effet, c'est pas pour un orchestre baroque, c'est pas vraiment facile de jouer en plein air, parce qu'on est confronté à l'humidité, aux températures, les pages qui s'envolent, des choses comme ça. Mais bon, je pense pour les publics, ça va être magnifique et magique d'écouter cette œuvre-là dans ces sites-là. Donc on fait tout pour faire ça au mieux possible. On serait un peu amplifié, hein, quand on fait des concerts en plein air, on ne peut pas les faire en acoustique comme on aurait fait dans une église, par exemple, ou dans une salle de concert. Mais voilà, ça va rendre l'œuvre voilà, très bien, très proche aussi du public, avec une légère amplification qui est nécessaire.
Alors pour la voix,
on verra le ciel étoilé, je pense que ça sera...
Il devrait faire beau.
Il devrait faire beau. Alors c'est vrai que nous, les chanteurs, chanteurs classiques, on est rarement sonorisés, sauf effectivement la plupart du temps pour les concerts en plein air. Moi, je sais que c'est toujours un peu un stress pour moi parce que j'ai moins l'habitude et on a toujours peur que la technique nous joue des tours, que le micro fasse un Larsen ou voilà, et tue un peu la magie du moment. Donc c'est toujours un moment difficile de finalement confier sa voix à la technique qui est devant.
Il faut avoir confiance, là, oui.
Voilà, mais je pense que ça va nous donner effectivement de faire en plein air comme ça. Je crois que c'est pendant la nuit, non ?
Oui.
Ça, voilà,
d'avoir à partir de 21h30 avec la cité illuminée.
Ça va être une atmosphère. Voilà, on va accompagner le coucher du soleil, donc ça va être magnifique.
Pour terminer rapidement, un mot sur vos projets à venir, parce que je sais qu'il y en a deux qui concernent des musiciens qui se sont déjà produits dans le festival cette année. Je pense au groupe corse Barbara Fortuna pour Cristina Ploar et l'arpeggiata, et à Thibaut Garcia concernant Philippe Jarowski. Alors, Cristina, après Via Crucis, il y a 11 ans, il pourrait y avoir une nouvelle collaboration avec Barbara Fortuna. Il en est question ?
Ah. En effet, vous avez parlé à mes amis, c'est ça ?
Oui, je confirme.
Voilà, il y a des réflexions en cours, mais vous savez, ça porte malheur de parler trop tôt des
projets
futurs.
Oui, vous n'avez pas tort. Mais voilà, mais je sais que Via Crucis, ça va être magnifique, et bon, je pense que tout le monde serait heureux d'avoir une nouvelle collaboration entre ce groupe magnifique et l'arpeggiata.
On adore Barbara Fortuna, et voilà, et puis effectivement, il y a des choses qui cuisinent. Mais on a un disque qui va sortir bientôt, en fait, en octobre, avec la musique napolitaine, justement, à la napolitana.
Et donc Philippe Jarowski, nouveau CD à venir avec Thibaut Garcia, il y en a déjà eu un. Il y en a un qui devrait sortir d'ici la fin.
Ah oui, moi je peux en parler parce que c'est officiel.
Ça c'est officiel.
C'est enregistré, c'est dans la
boîte. Ça a été annoncé par Thibaut aussi.
Voilà, il sortira le 15 octobre. Alors, on s'est rencontré avec Thibaut il y a 3 ans. Je l'ai invité effectivement à enregistrer 2 pièces dans ma compilation. Une pièce de Dowland et les Feuilles mortes de Cosma. Et finalement... sans vraiment s'en rendre compte, on avait déjà le principe de ce disque, c'est de parcourir 4 siècles de musique, 5 langues différentes, et voilà, de commencer dans le disque, on a Dowland, Purcell, Mozart, Schubert, Rossini, de la musique brésilienne, du Fauré, du Poulenc.
Vous faites ce qu'on appelle du crossover.
Voilà, et jusqu'à Barbara, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de plaisir à choisir les pièces, curieusement. On a pratiquement fait aucune pièce qui était écrite pour guitare et voix, on a fait vraiment énormément d'arrangements. Et voilà, Thibaut est un magnifique musicien, en plus d'être un guitariste virtuose. Et voilà, une grande tournée.
Et il y a une tournée européenne derrière.
Voilà,
une dizaine de dates, je crois, à partir de début décembre.
Décembre à janvier,
jusqu'au début de l'année prochaine. Eh bien, merci infiniment à vous deux. Je rappelle que Philippe Jarowski, la soprano Céline Chen et l'arpeggiata de Cristina Ploar donnent ce soir à 21h30 leur concert dans la prairie, au pied de la cité de Rocamadour. Au programme, le Stabat Mater de Pergolèse et des airs de Caldara et Handel. Passe sanitaire obligatoire pour y assister. Pensez à vous munir de vêtements chauds, c'est plus prudent. Une fois que la nuit sera tombée, vous verrez qu'il va faire froid. Pour réserver et acheter vos places en ligne, je vous invite à consulter le site du festival www.rocamadourfestival.com. Merci encore de votre fidélité à ce rendez-vous avec les musiciens et très bon après-midi à tous à l'écoute de Radio Présence.